Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que le week-end démarre bien. Alors vous avez commandé du cinéma, ne bougez pas, j'ai tout ce qu'il vous faut au menu de Clap cette semaine. Une heure d'information, de bonne humeur et surtout de décryptage. Dans la première partie de l'émission, l'actrice Anna Girardeau nous parlera du podcast qu'elle réalise pour la plateforme Cybelle, l'adaptation du célèbre roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. On reviendra avec Didier Allouche sur la présentation en avant-première mondiale à Londres. Cette semaine, c'était l'événement qui a fait énormément parler, le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, et surtout l'ultime épisode de la saga avec Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007. À 14h30, l'acteur que je reçois est toujours épatant, qu'il tourne avec les frères Dardenne, François Ozon ou encore Bertrand Bonello. Il aime se renouveler et endosser des rôles très différents. C'est Jérémy Régnier qui sera dans Clap pour revenir sur la sortie de L'Homme de la Cave. Et lorsque je lui demande le film qu'il a le plus vu, écoutez sa réponse.
Le secret de mon succès avec Michael J. Fox. Et alors, c'est un film hyper capitaliste. C'est l'histoire d'un petit gars qui arrive du Missouri, je ne sais pas où, d'une ferme aux États-Unis, qui débarque à New York et il veut devenir le roi du monde, du business. Et du coup, voilà, et il monte les échelons. Mais je ne sais pas pour quelle raison, je trouvais son épopée dingue et puis j'adorais Michael J. Fox. Oui. Voilà.
Et puis en dernière partie de Clap en compagnie de mes spécialistes, nous vous parlerons des films à voir ce week-end au cinéma. Cette musique ne joue pour personne, par exemple, le nouveau film de Samuel Benchetrit ou encore Guermantes, le projet fou de Christophe Honoré qui filme les répétitions d'une pièce de théâtre à la Comédie Française. Voilà pour les réjouissances de votre Clap et ça commence maintenant.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Ce n'est pas très modeste, mais je crois qu'on ne l'a jamais vu comme ça depuis 10 ans. Enthousiaste, aussi impliqué dans un film et disponible. Tels sont les mots de Patrice Lecomte, le réalisateur, qui parle de Gérard Depardieu. Alors notre Gérard Depardieu, figurez-vous qu'il va jouer l'inspecteur Maigret dans un film donc réalisé par Patrice Lecomte, qui devrait sortir au premier trimestre 2022. On a hâte de voir ce que ça va donner.
Voilà. Je me réveille pas, moi. Si, je rêvais que je me rasais.
Ça tombe bien, moi aussi je suis de bonne humeur, commissaire Maigret.
Et puis en parlant de célèbres inspecteurs, Thierry Lhermitte, lui, a le projet d'adapter l'inspecteur Derrick au cinéma. Ça aussi, on a hâte de voir, tiens. Allez, on reste dans l'univers des enquêtes avec la sortie sur la plateforme Cybelle d'un podcast audio immersif sous haute tension, La disparition de Stéphanie Meller. Alors l'actrice Anna Girardeau signe avec ce projet sa première réalisation et dirige son père d'ailleurs, Hippolyte Girardeau, mais aussi Alice Belaïdi, ou encore Guillaume Labbé, que vous avez peut-être découvert dans la série Planqueur sur Netflix.
Venons d'apprendre, le maire de la ville d'Orphéa et sa famille ont été retrouvés morts à leur domicile.
Meurtre au paradis. Ce quadruple assassinat qui traumatise la ville d'Orphéa.
Une enquête a été ouverte. La police a commencé à interroger l'entourage du maire.
La disparition de Stéphanie Meller. Une création si belle.
Anna Girardeau, vous êtes avec nous cette semaine. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors vous réalisez donc le podcast La disparition de Stéphanie Meller. C'est votre première réalisation. Pourquoi déjà est-ce que vous avez accepté ce projet ?
Parce que j'avais déjà entendu beaucoup de fiction audio, j'aime beaucoup ce média, je consomme aussi beaucoup de podcasts. Et donc l'exercice de pouvoir mettre en scène tout l'univers de Joël Dicker dans une audio-fiction m'a tout de suite beaucoup plu comme exercice.
Vous aviez lu le roman ?
Bien sûr, j'avais lu le roman, j'avais lu aussi l'affaire Harry Kéber et j'avais entendu, j'avais écouté l'audio-fiction de cette adaptation. Et moi j'ai vécu aux États-Unis, donc il y a tout un univers des Hamptons de Joël Dicker que j'aime beaucoup. Et de me dire que j'arriverai à retranscrire les US comme ça, avec des acteurs français, tout tourné dans Paris. Je trouve qu'en fait ça fait appel à l'essence même du cinéma.
Moi je voulais vous demander, est-ce que d'après vous on peut rentrer dans une fiction auditive de la même façon qu'on rentre dans un film ?
Oui, je pense qu'il faut la même disponibilité. Mais de la même manière dont on rentre dans un roman. Je pense que l'audio-fiction se loge juste entre les deux parce qu'on a quand même toute une mise en scène. Au lieu d'une caméra, moi j'avais un micro et avec ce micro, j'emmène l'auditeur là où j'ai envie de l'emmener. Cependant, vous, auditeur, vous avez aussi votre travail d'imaginaire qui fonctionne énormément.
Mais d'ailleurs, ça développe même beaucoup plus l'imaginaire que le cinéma.
Bien sûr.
J'ai Franck Vallière à mes côtés qui a une question pour vous.
Bonjour Anna.
Bonjour.
Je me demandais comment ça se passe pour un acteur qui doit jouer sans se soucier de savoir que son corps n'est pas filmé. Est-ce que ça modifie la perception du travail ? Est-ce qu'on doit de toute façon se soucier du corps parce que le corps fait partie du jeu d'acteur ? Comment ça se passe de savoir qu'on n'est pas filmé par une caméra ?
Alors, les acteurs devaient de toute manière arriver déjà en jogging, donc avec des tissus qui ne faisaient pas de bruit. Malgré tout, je leur demandais un réel engagement physique parce que, en fait, à l'audio, tout s'entend. C'est-à-dire qu'on jouait dans des décors réels, et je leur demandais de bouger, les HF étaient accrochés à eux, on avait une perche qui les suivait. Et des moments très physiques, s'ils ne sont pas joués avec le corps, ça s'entend vraiment. Il y a même un sourire s'entend.
Comme pour le doublage.
C'est assez incroyable. Comme pour le doublage, en fait, exactement. Et vraiment, c'était pour eux un super apprentissage, parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Et il y avait vraiment une manière différente de jouer.
Merci beaucoup, Anna Girardeau.
Merci beaucoup, Louise. Merci.
La semaine dernière, il nous a posé un lapin, mais cette semaine, il est bien avec nous. Il est très en forme d'ailleurs et il est toujours à Los Angeles. C'est tout de suite le JT d'Hollywood de Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Me voilà de retour à Hollywood après une escapade au congrès des exploitants de Deauville où j'ai présenté 355 bandes-annonces. Et si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, la pizza au réglisse. Elle est sur le net, précipitez-vous. It's a god-awful small affair.
I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere.
De retour donc à Hollywood et dans un Hollywood qui va mieux puisque Shang-Chi vient de battre le record d'entrée de l'ère pandémique dans les salles américaines. Il en est à 196 millions de dollars et devrait finir sa carrière autour des 250 millions. Ça va donc mieux pour le box-office en Amérique, mais le vrai test arrive. Le 8 octobre sort enfin le nouveau James Bond. Ting 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 ting. Là, à la réalisation, ils vont démarrer la musique de James Bond sous moi, sinon j'aurais l'air un peu idiot. En même temps, ce ne serait pas la première fois. Tin 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 tin. Mourir peut attendre a attendu le temps qu'il a fallu, mais le film débarque donc sur les écrans américains le 8 octobre, deux jours après la France. Et dire que les chiffres du 25e 007 officiel seront regardés à la loupe, c'est un gentil euphémisme. L'avenir du calendrier des blockbusters repose sur les épaules de l'agent secret britannique. En cas de bide ou de résultat décevant, toutes les sorties des prochains gros films seront remises en cause en Amérique. Mais heureusement, James Bond a les épaules solides. Enfin, on l'espère.
Alors c'est vrai que c'était l'événement quand même cette semaine, la présentation du James Bond. On en reparlera plus longuement la semaine prochaine. Sachez donc tout de même que c'est la dernière fois que Daniel Craig endosse le costume de l'agent 007 et on a hâte de savoir quel acteur ou quelle actrice, hein, pourquoi pas, va lui succéder. Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. Il faut quand même rappeler aussi qu'il a été très critiqué à son arrivée, Daniel Craig, et finalement il a réussi à imposer son style, un James Bond blond, musclé, mais aussi beaucoup plus humain, avec certaines failles. Et moi, vraiment, je vais le regretter, j'ai beaucoup aimé l'air Daniel Craig. Allez, on reste encore ensemble, Clap ne fait que commencer et dans quelques instants, je reçois le comédien Jérémy Régnier. A tout de suite sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Clap. Alors cette semaine, j'ai la chance de recevoir l'un de nos acteurs les plus talentueux, capables de tous les grands écarts au cinéma, de Clo-Clo à L'âme en double chez Ozon. Quand il sort un film, on dit souvent à son sujet, et c'est vrai, j'ai vérifié sur Internet, quelle interprétation magistrale, acteur épatant, interprétation bluffante. Et cette semaine encore d'ailleurs, il ne fait pas mentir les critiques. Il est belge, mais on l'a définitivement adopté ici en France. Merci Jérémy Régnier d'être avec nous.
Merci pour ces compliments. Je les prends, j'ai bien fait de venir.
Oui, c'est sincère en plus et je dis c'est vérifié, j'ai vérifié mes sources.
C'est vérifié en plus.
Alors Jérémy, vous serez le 13 octobre à l'affiche de L'Homme de la Cave aux côtés de François Cluzet et Bérénice Bejo, un thriller psychologique de Philippe Le Guay. Alors l'histoire d'un couple que vous incarnez donc avec Bérénice qui voit sa vie bouleversée après avoir vendu leur cave à un homme plutôt inquiétant. C'est un film noir qui tire vers le film de genre avec une ambiance quand même assez pesante. Est-ce que c'est ce qui vous a plu ?
Alors, entre autres, mais aussi le sujet du négationnisme qui est... Alors, ce n'est pas un film à thèse ni à dossier, mais ça soulève cette question-là du complotisme. Et toute cette partie-là, je connaissais assez mal. Et je me dis, c'est du coup un film nécessaire, en fait.
C'est vrai que c'est un film nécessaire, et j'allais dire, ça fait partie des thèmes qu'on aborde finalement peu dans le cinéma français. Là. Alors, il y a eu des films sur l'antisémitisme, sur la Shoah, bien sûr, mais le négationnisme, vraiment, c'est vrai que j'ai pas souvenir d'un film en particulier.
Non, et puis surtout, en plus, on suit ce personnage, donc qui est le personnage qui va justement racheter ma cave, qu'est-ce que c'est, cette espèce de monstre qui...
Ancien prof d'histoire radié par l'éducation nationale, justement, pour propos négationnistes.
Exactement, qui est joué par François Cluzet. Et tout d'un coup, en fait, on traverse toute l'évolution d'un complotiste et comment il y arrive. Et au départ, il pose juste des questions. Et le fait de poser des questions fait qu'il remet en question. Mais voilà, c'est toute cette partie-là était très intéressante. De la rencontre avec François Cluzet et puis le fait de travailler avec Philippe Le Guay, dont je connaissais forcément le travail.
Comment est-ce qu'il vous a présenté le projet? Alors, je sais qu'il s'est inspiré d'une histoire qui est arrivée à deux de ses amis.
Oui, ouais. Pauvre.
Ça
part de ce préambule-là. Alors, il y a eu des dommages collatéraux un peu plus compliqués. C'est-à-dire qu'ils sont partis en procès pendant 2 ans, ils sont séparés, ça a altéré leur vie privée. Voilà, c'était très très lourd et il est parti de ça et il en a vu, voilà, il s'est posé la question, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passerait au niveau familial? Est-ce que ça représente aujourd'hui encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit dans la presse? Voilà, c'est des sujets qui étaient importants pour lui.
Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile une cave. On avait dit 9000, hein, je vous règle tout en une fois.
Vous savez, le monsieur qui a acheté la cave, et bien cette nuit, il a dormi en bas.
Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule.
Maître, j'annule la vente de cette cave.
Vous allez nous rendre les clés.
Ah, non, la cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien.
Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie.
Bah, Jérémy, on vous a jamais dit qu'il fallait pas faire confiance à un inconnu?
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est
le personnage, il est profondément.
Mais il est profondément humain. Il croit en l'autre. Il a la main tendue.
Il voit pas le mal.
Voilà, c'est un père de famille exemplaire, un mari idéal, un voisin hyper présent. Et tout d'un coup, en fait, il y a une petite pièce qui va enrayer l'engrenage. Et toute sa vie va exploser, en fait.
Ce que j'allais dire, c'est tout l'engrenage, parce qu'il y a ce couple aussi qui forme avec Bérénice Bejo, qu'on montre comme un couple uni, très amoureux, et finalement, le couple va vaciller. On se dit qu'un rien, parfois, ça s'effondre.
Ça peut nous arriver
en fait
à tous. Hein. Et puis, c'est pour l'anecdote, c'est très drôle. Enfin, drôle, non. Mais pendant que je lisais le scénario qu'on m'a proposé le film, en fait, il m'arrivait pas du tout la même chose, parce que j'avais pas un négationniste chez moi, mais j'avais un locataire, un appartement que j'avais à Bruxelles, qui ne voulait plus partir. Alors que j'avais vendu le bien, enfin, c'était très compliqué. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une situation que je ne maîtrisais plus et que je ne savais pas comment maîtriser. Ça n'a pas brisé mon couple,
oui,
mais c'était dense.
Dense.
Non, mais je ne plaisante pas. Et donc forcément, parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui font des liens avec ce qu'on nous propose dans le travail.
Alors en plus, ce personnage, c'est aussi quelqu'un qui va de l'avant, qui ne veut pas rester ancré dans son histoire familiale. Donc finalement, cet événement va tout faire rejaillir à la surface, le passé de sa famille pendant la Shoah. Contrairement à son frère, incarné par Jonathan Zakaï, qui lui est... qui revendique ses origines et son histoire.
Oui, je trouve ça assez intéressant et aussi important parce qu'on voit le personnage de mon frère joué par Jonathan, qui lui revendique, qui est dans une forme de d'énervement. Voilà, il a l'impression qu'il n'est pas encore assez entendu, assez compris, et ce qui est vrai, à des moments.
Il est encore dans la douleur, d'ailleurs.
Il est dans la douleur, dans le souvenir, dans la perte, dans... Et mon personnage est différent, il a envie de passer au-dessus, il le dit d'ailleurs à un moment donné, il dit voilà, mais moi j'ai envie d'aller de l'avant et pas d'être écrasé par son histoire et son passé, ce qui est aussi important.
Et là, mais on est toujours rattrapé par son passé.
On est toujours rattrapé par ses racines et c'est important et c'est pour ça que le film est primordial, au-delà d'être une fiction et un film, comme vous l'avez dit, dense et un thriller. Il y a vraiment cette question sur la Shoah, sur ce qu'on a mis de côté, ce qui s'est passé, le négationnisme qui remet tout ça en question. C'est vraiment important. Je pense que réellement, c'est un devoir même de ne pas oublier. Quoi.
Surtout que peu à peu, il y a de moins en moins de rescapés de la Shoah. Et c'est aussi ce que dit le film, c'est qu'à un moment donné, ça va être la parole des uns contre les autres. Et il y aura des personnes comme ce personnage joué par François Cluzet.
Il y aura plus
de
témoins bientôt,
donc
ce sera difficile. Là, déjà, on contredit les témoins. Donc
C'est compliqué. C'est ça le danger, je trouve, qui est très bien aussi pointé du doigt dans le film, à travers le personnage de votre fille, avec Bérénice et vous, qui est une adolescente et qui représente cette jeunesse finalement parfois fragile, parfois influençable aussi.
Ouais, très influençable, parce que on peut tout remettre en question, et ce qui n'est pas faux non plus, et le film aussi pose cette question-là. Mais à un moment donné, en plus, dans un âge comme l'adolescence, où déjà on se recherche soi-même, en rébellion contre une forme de système que les parents nous ont mis en place, ou la vie, tout d'un coup, on est plus perméable.
La seule chose qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même.
Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Vous avez peur de quoi ? La vérité.
Voilà. Alors oui, ce qui est terrible aussi, c'est que ce personnage quand même détestable, joué par François Cluzet, bah, c'est aussi tout le talent de François Cluzet, c'est qu'il y amène une certaine humanité. Et qu'il y a un moment où même nous, devant l'écran, on se dit... mais il serait pas un peu sympa? Et en fait, ah bah non, on peut pas le trouver sympa.
Ouais, mais en plus, c'est ça qui est important et intéressant, parce que c'est trop facile de pointer les monstres, dire voilà, c'est un monstre. Ils ont pas une étiquette, ils ont pas un costume défini pour être ces monstres-là. Et là, tout d'un coup, il y a une complexité sur le fait que on peut être embarqué, oui. On peut essayer de se dire, mais oui. Pourquoi on ne pourrait pas remettre les choses en question? Et c'est là où le danger arrive.
Un mot aussi sur l'Albatros. On en reparlera dans Clap de Xavier Beauvois, qui sort le 3 novembre, qui est un film, Jérémy Régnier, dans lequel vous incarnez un commandant de brigade qui est respecté, apprécié, et qui va commettre une bavure. C'est un film très poignant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot?
C'est un film qui m'est très important... parce que ça a été une rencontre humaine
avec
Xavier Beauvois, et puis tout ce qu'il a mis en place, parce que donc je suis entouré en grande majorité de non-professionnels, et des gens dont c'est vraiment leur vie, que ce soit les gendarmes, que ce soit les paysans qui sont autour de moi, le maire, la femme et la fille de Xavier sont dans le film. Donc il y a vraiment une immersion dans sa propre intimité en tant que metteur en scène, et dans l'intimité de ces gens. Et donc je dois dire que ça a été une très belle rencontre humaine.
Un film qui va faire beaucoup parler de lui. Vous tournez depuis vos 15 ans, quasiment un film par an, je crois. Enfin, en tout cas, vous êtes très, très sollicité. Comment est-ce que vous choisissez vos projets ?
Y a des choses qui paraissent évidentes, et puis d'autres moins. Et puis, c'est des rencontres. Et en tout cas, voilà, par exemple, si je reprends le film de Philippe Le Guay, c'est tout d'un coup un sujet, au-delà même du film, c'est un sujet que je trouve important et important de mettre en avant. Et si le cinéma peut faire ça encore aujourd'hui, c'est important. Voilà.
Et quand c'est Clo-Clo,
c'est
la musique. C'est la musique qui s'impose à vous.
C'est Clo-Clo qu'il ne faut pas oublier d'une manière ou d'une autre.
Justement, j'allais dire, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus marqué qu'un autre ou demandé plus de travail?
Non, c'est vrai que quand on interprète des personnages qui ont existé ou existants, il y a un devoir, soit de mémoire, de représentation, qui est en même temps intéressant et en même temps qui peut faire peur.
Il y a eu Pierre Berger aussi.
Pierre Berger,
il y en a eu plein d'autres.
J'en ai fait d'autres, mais c'est assez exaltant, je reprends Claude François, d'avoir autant de matériel pour pouvoir s'appuyer dessus et pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le jouer, c'était vraiment quelque chose de formidable.
Un mot sur la réalisation, vous en êtes où? Vous avez co-réalisé un film
co-réalisé
avec votre frère, Carnivore, que j'avais adoré.
Merci. tout doucement, il y a un prochain qui arrive. Voilà.
Ensemble?
Mais je laisse, pas ensemble cette fois-ci, pas pour l'instant.
Seul. D'ailleurs, vous aviez dit que chaque acteur devrait passer à la réalisation.
Ah, j'ai dit ça, moi. Ouais. C'est une connerie, ça.
C'est vrai,
je ne sais pas si chaque acteur, mais non. En tout cas, oui, non, je pense que
ça,
j'ai dit ça dans le sens...
Ça a changé votre regard sur votre
métier
d'acteur ?
Le fait d'être acteur, on est très privilégié, on est dans une position assez agréable, et de se rendre compte de ce que c'est de réaliser, l'importance, le temps qu'on met quand on réalise. Du coup, parfois, en tant qu'acteur, on ne se rend pas compte de ça. Voilà. Et en passant de l'autre côté, on se rend compte du poids que c'est. Et donc, on relativise un peu plus. On se dit, ouais, c'est bon, en fait, je ne vais peut-être pas leur demander ça et ça, ou je vais essayer de rester, de comprendre, voilà, d'être plus indulgent.
Jérémy Régnier, je vous garde un petit peu à mes côtés. Nous allons évoquer les films de votre vie dans quelques instants. Restez bien avec nous. Clap revient dans une poignée de secondes.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Clap et c'est la suite de votre grand entretien, Jérémy Régnier. Je rappelle que vous êtes le 5 octobre à l'affiche de L'Homme de la Cave. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Jérémy, vous aviez déclaré que chacune des étapes de votre vie était liée à un film. Nous, maintenant, on va justement s'intéresser au film de votre vie. Si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Alors, un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je me rappelle que quand j'étais adolescent ou assez jeune, je passais parfois ma journée. Alors, je grugeais, je payais une fois une place de cinéma et je restais dans le complexe. Et donc, du coup, après un film, j'allais en voir un autre et un autre. Et donc, je passais ma journée dans le cinéma à voir 3-4 films. Donc, c'était Voilà,
elle vous est venue jeune, la passion du cinéma ?
Oui, elle m'est venue jeune. Alors, je ne sais pas comment et pour quelle raison, parce que mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu. Ils sont tous les deux ostéopathes.
C'est pratique, ça.
Voilà, c'est pratique quand on a les petites vertèbres coincées bah, du dos. Mais, pour le cinéma, c'est moins intéressant.
Oui, oui, oui. Mais, donc, il y a moins de pistons.
Voilà, il y a moins de pistons. Mais non, c'est arrivé dans ma vie par curiosité. Alors voilà, très vite, j'ai commencé à réaliser des petits films avec des potes, etc. Dès l'âge de 11-12 ans, je prenais la caméra de mon père et je mettais des conneries en scène. Il regarda, mais on s'amusait. Vraiment, je passais beaucoup de temps à ça. Et puis, j'ai passé des castings comme ça par hasard. Voilà. De rencontre en rencontre, j'ai fait un peu de théâtre. Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré les frères Dardenne à 13 ans qui m'ont préposé leur film La Promesse.
Bonjour, monsieur. On avait parlé 10 000 si tu recevais tes clients chez toi.
Ils ont quoi comme argent ? Du belge ?
Ça va, arrête.
Non. Jusqu'à mercredi, 50$ chacun.
C'est beaucoup.
Ils peuvent aller voir ailleurs. J'arrive. Gardez le bolide.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Il est venu dans une nouvelle maison. Il faut le protéger contre les mauvais esprits.
Il n'y a pas de mauvais esprits ici. Je ne suis pas d'accord avec mon père, mais je ne suis pas un mouchard.
Votre séance de cinéma la plus dingue ?
Alors, c'était... à Yaoundé, au Cameroun. J'avais 14 ans, 15 ans, et je venais présenter La Promesse, justement. Premier festival, pas première fois en Afrique, mais premier festival. J'étais tout seul pour présenter ce film. Il n'y avait pas de réalisateur, etc. Donc c'est très particulier. Et
je me retrouve. Vous étiez avec Olivier Gourmet dans le
film ?
Non,
oui, j'étais Olivier Gourmet, mais personne n'était là. J'étais le seul pour représenter le film. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là et comment j'ai osé. Peut-être qu'aujourd'hui, je me reposerai la question. Et genre, je m'arrive dans cette salle et en fait, le public était tellement investi par ce qui se passait à l'écran qu'ils hurlaient, ils disaient « Mais attention derrière toi !» Donc ils vivaient le truc comme si c'était réel, quoi. Donc
c'était
assez dingue à voir, ouais.
Le film qui vous fait le plus rire ?
Alors, j'aime beaucoup les films d'Udda Patow. Il y en a un qui m'a vraiment fait énormément rire, Step Brother. Et j'ai un petit souvenir parce que c'est
Frangin malgré eux, en
c'est
français,
Frangin
c'est
malgré eux, ouais. Je ne savais pas le titre en français. Il y a un film qui s'appelle... je ne connais pas le réalisateur, c'est drôle parce que c'est ma femme qui me l'avait montré en me disant, nous disons, bon, mes fils et moi, il faut absolument que vous regardiez ça. On avait vu la bande-annonce et on trouvait ça hyper nul, la bande-annonce. Et du coup, pour lui faire plaisir, on s'est dit, bon, on va le regarder. Et il s'appelle Hot Rod. Et il y a un moment dans ce film,
c'est l'histoire d'un cascadeur,
c'est
ça,
d'un cascadeur complètement nul dans le centre des États-Unis et qui rate toutes ses cascades. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça se passe, mais il tombe et ça dure des heures et des heures. Et c'est tellement drôle, c'est-à-dire que juste cette séquence-là, je peux me pisser dessus, quoi.
Bon, bah voilà, c'est un bon film à voir ce week-end si vous ne savez pas quoi faire. Le film que vous revoyez sans cesse, Jérémy Régnier ?
Il y a un film que je revois souvent et. Que je revoyais très souvent jeune et puis maintenant avec le temps je le revois de temps en temps et puis c'est surtout un film que j'ai envie de montrer à des gens qui ne connaissent pas. C'est Un singe en hiver d'Henri Verneuil avec Belmondo et Gabin. Je sais pas pourquoi, c'est parce que moi j'étais très fan de Belmondo jeune et de toute cette période un peu bébelle et tout ça, c'est comme ça que je l'ai découvert et j'ai découvert voilà, Belmondo plus tard je vais avoir 17-18 ans avec voilà, Un singe en hiver, Pierrot le fou et Un singe en hiver, je sais pas pourquoi, cette ivresse, cette rencontre. Ces deux
dialogue
personnages,
de Michel Audiard.
Dialogue de Michel Audiard, cette fameuse scène où il est sous dans ce bar et qui demande le dernier train pour Madrid. Voilà, c'est un film qui m'a tout de suite. Alors qu'en plus, je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu en noir et blanc. Alors, je sais pas pour. Voilà, mais moi j'avais un petit rejet sur les films en noir et blanc jeunes. Voilà, ça me paraissait démodé, vieux. Et voilà, tout d'un coup, c'est un des premiers, je crois, après La Haine que j'ai vu en noir et blanc.
Avec un ton aussi, le ton de cette époque qui était très libre.
Ouais. Oui, il y a une forme de liberté, de douceur, de ce côté gouailleur qu'avaient les deux. Et puis tout d'un coup, c'est ces deux personnages qui se permettent une parenthèse voilà, dans leur vie.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Ah là là, puis quelle voix.
Ouais. La voix est dingue. Votre comédie romantique préférée ?
Alors, j'aime beaucoup de Paul Thomas Anderson, Punk Drunk Love. Je trouve
avec Adam Sandler.
Avec Adam Sandler.
Prix de la mise en scène à Cannes.
Ah, ça, je ne savais plus. Ouais, mais j'ai trouvé, je l'ai vu en plus assez tard. sur le tard, alors que j'adore ce metteur en scène. Et j'étais un peu réticent, peut-être le fait d'Adam Sandler dans un Paul Thomas Anderson. J'étais un peu perturbé et j'ai trouvé ça mais d'une force. C'est toute une séquence, je vous invite à la voir, où un moment, en fait, avec une musique qui n'arrête pas d'avancer, et s'il est au téléphone, il essaie de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et il y a une tension, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, et il y a une tension qu'il arrive à mettre comme ça. Donc, c'est un film. Et malgré tout, alors il y a une tension, et malgré tout, c'est une histoire d'amour. Donc,
oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une comédie romantique.
Ouais, voilà.
Mais vous aimez les comédies romantiques? Vous en voyez beaucoup?
Est-ce que j'en vois beaucoup? Après, ça dépend ce que ça veut dire recommander. Ouais, non, j'en vois pas tant que ça, mais ça fait toujours du bien.
Le film que vous regrettez de ne pas avoir découvert au cinéma?
Apocalypse Now.
De Coppola. Palme d'or à Cannes.
Palme d'or à
Cannes.
Vous
êtes très film cannois.
Je suis très Cannes.
Oui, exactement.
Vous êtes très Cannes.
Non, mais parce que celui-là, je pense que quand il a débarqué au cinéma, ça devait être une grosse claque. Entre le son, l'image, voilà, je pense que ça a été. Enfin, ça l'est toujours. Mais,
oui,
mais
c'est un film culte sur la guerre du Vietnam.
Et celui-là, je n'ai pas vu. Et puis parce que le cinéma, encore plus aujourd'hui, nous appelle à aller, parce qu'on a tous des écrans énormes chez soi ou des projecteurs. Mais voilà, donc c'est vrai que le fait d'arriver dans une salle où l'image correspond à l'idée du metteur en scène, est-ce que sa volonté de nous imposer sa vision d'artiste, voilà. Et je crois que pour ça, c'est un film très fort à voir en salle.
Et le casting quand même du film. Marlon Brando, Martin Sheen, Denis Hopper.
Ouais.
C'est pas mal.
C'est pas mal. D'ailleurs, il y a une anecdote assez géniale qu'on m'avait racontée sur Marlon Brando qui devait faire le film. Et puis en fait, Francis Coppola ne l'avait pas vu depuis des mois parce que le film s'est retardé. Et puis toute sa partie était à la fin en fait, du tournage. Et en fait, il a vu apparaître Marlon Brando avec 50 kilos de trop. Tout d'un coup, il s'est dit, mais c'est pas possible pour quelqu'un qui est perdu dans la jungle depuis des années, qui est censé bouffer rien, ça ne marchera pas. Et alors tout d'un coup, il s'est dit, OK, en fait, je vais le mettre dans l'ombre et on va presque pas le voir, on va juste voir ses yeux. Et du coup, il y a tout un truc génial de mise en scène en fait, qui a découlé de ça. Quoi.
Ah, c'est drôle. Bon, il faut revoir le film, donc pour le voir différemment.
Moi, je voulais une mission. Et pour mes péchés, ils m'en ont donné une. C'est-à-dire, vous y mettrez fin de la manière la plus radicale.
Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir?
Non, ce qui était génial, ce que mon père a fait, et qui, je pense, a amené à ma culture cinématographique, en tout cas mon envie du cinéma, qui était très hétéroclite en plus, parce qu'on avait une émission à l'époque, quand j'étais jeune, qui s'appelle Écran à témoins. Et en fait, tous les lundis, sur la RTBF, la chaîne nationale belge, il y avait un film et puis un débat sur le film. Et d'ailleurs, intéressant à refaire peut-être un jour.
Oui, j'avoue que j'étais en train de me dire, d'accord, je vais prendre des notes. Parce que souvent, il y a des bonnes émissions en Belgique.
Et d'un coup, donc, à chaque fois, c'était... En plus, je crois qu'il y avait deux films. Il y avait un film un peu plus grand public, puis un film un peu plus d'auteur. Et mon père... avait du coup, il enregistrait tout en cassette vidéo à l'époque, en VHS. Et donc, du coup, il avait une vidéothèque énorme. Et voilà, je passais ma vie, mais parce que j'étais fils unique avec des frères et sœurs beaucoup plus âgés qui étaient moins présents. Donc, j'étais un peu seul. Et du coup, je passais mes journées à regarder des films. Et c'est comme ça que je tombais sur des choses que je n'aurais peut-être même pas dû voir à cet âge-là. Donc là, je remercie mon père pour ça.
Et donc, Le Roi et l'Oiseau?
Et Le Roi et l'Oiseau, non, je pense que ça, c'est aussi... un film que mes parents m'ont montré très jeune, parce que c'est un des premiers souvenirs que j'avais d'enfant, d'avoir été un peu émerveillé par quelque chose de très poétique que je maîtrisais même pas, je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait, mais il y avait quelque chose de très profond, de qui me faisait peur et en même temps qui
C'est un film qui est souvent... Enfin, Pierre Ninet nous l'a cité aussi. Ah ouais. Je crois que c'est un film qui est souvent montré par les parents aux enfants. Et c'est un très joli film d'animation avec des textes de Jacques Prévert.
Exactement.
Le film que vous avez le plus vu?
Alors, c'est une petite honte, mais je pense que...
Ah non, j'étais contente que vous répondiez ça.
C'est un film qui a eu la Palme d'Or. Non, j'ai quoi
Non, pas celui-là.
Non, celui-là, pas du tout. C'est Le Secret de mon Succès avec Michael J. Fox. Et alors, c'est un film hyper capitaliste. Où c'est l'histoire d'un petit gars qui arrive du Missouri, je ne sais pas où, d'une ferme aux États-Unis, qui débarque à New York et il veut devenir le roi du monde, du business. Et du coup, voilà, et il monte les échelons. Mais je sais pas pour quelle raison, je trouvais son épopée dingue et puis j'adorais Michael J. Fox. Oui. Voilà.
Ne me dites pas que j'ai trop d'expérience pour ce travail.
Certes non, vous êtes exactement ce que nous cherchons.
Génial.
Excepté non.
Pas d'exception. Je veux ce boulot. Il me le faut. J'en ai besoin. Partout où je suis allé aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Trop jeune, trop vieux, trop petit, trop grand. Quelle que soit l'exception, je la surmonterai. Je serai plus vieux, je serai plus grand, je serai plus n'importe quoi.
Ah oui, pouvez-vous être une mère porteuse ?
Et c'est triste parce que Michael J. Fox, il a eu sa carrière qui s'est arrêtée en plein succès, jeune, parce qu'il était atteint de la maladie de Parkinson.
Ouais.
Et c'est vraiment c'était vraiment un super acteur. Quoi. Et
ouais,
c'est tout,
il
ça représente
fraîcheur,
une époque. Oui.
C'était
ouais,
ça, les années
futur.
80, 90, 90, même plus.
Il y avait une musique, il y avait une énergie dans le film.
Ouais. Et puis c'était des films, alors, où je trouve que maintenant, alors ça fait un peu vieux boomer qui raconte ça, mais j'ai l'impression qu'on était beaucoup moins frileux à montrer des films singulier et qui ne traitait pas des suites de suites de suites. Là, tout
c'est
d'un
vrai.
Coup, de faire aujourd'hui Back to the Future, voilà, c'était, il fallait avoir la volonté et puis de pouvoir produire, d'accepter de produire ce genre de film.
Ouais, c'était bien. Toute cette époque était bien.
Ouais.
Votre bande, oui.
Quand on était jeunes, maintenant on est
pleurer,
vieux.
Oui. Mais je crois que c'est parce que nous sommes à peu près de la même génération.
Ah, mon Dieu,
et donc
vous
nous sommes
beaucoup plus jeunes que moi.
Oh, mais non. Votre bande originale de film préféré.
Ma bande originale préférée, Paris, Texas, de Ray Cooper. C'est un des films, d'une part, les plus emblématiques que j'ai vus, qui m'a vachement inspiré d'ailleurs pour mon film, alors que ça n'a rien à voir, mais c'était un film qui était très présent en moi. Et puis cette musique qu'il y avait sur ces paysages de désert, voilà, c'était, pour moi, ça, c'est très marquant, quoi. C'est un souvenir profond.
Palme d'or à Cannes.
Encore,
film de Wim Wenders.
Ouais, merci, cette émission.
Il va être content, Thierry Frémaux. C'est pour lui, hein, cette semaine. Thierry Frémaux qui...
C'est pas pour rien qu'il s'en est Palme d'or. Hein.
C'est ça, sélectionne de très bons films pour le Festival de Cannes. Et enfin, la musique que vous écoutez pour faire du sport ou pour vous motiver, pour vous mettre de bonne humeur.
Je mets, alors ça dépend, mais je mets la playlist de mon fils qui a 16 ans et qui a une super playlist qui me fait découvrir à chaque fois parce que je suis, alors j'ai une culture quand même de la musique, mais qui s'est réduite avec le temps et puis je suis peut-être moins curieux et voilà. Et grâce à lui, je découvre plein de trucs. Donc voilà.
Donc il n'y a pas une chanson en particulier?
Il n'y a pas une chanson parce que je découvre.
Vous aviez dit Rocky.
Ah ouais, ah c'est vrai. J'avais dit Rocky, merde. Eh ben c'est ma chanson préférée.
Non, la BO pour
non,
faire
mais
du
c'est
sport.
Vrai que, c'est vrai que c'est sûr que Eyes the Tiger, mais jamais pas pour faire du sport. Ce serait quand même un peu ridicule. Mais comme j'ai une playlist, en fait, et tout d'un coup, ça passe et on arrive là-dessus, c'est vrai que c'est stimulant.
Bah, moi, je la mets pour faire du sport.
Ah, voilà.
Merci beaucoup, Jérémy Régnier. Je rappelle donc la sortie mercredi 5 octobre de L'Homme de la Cave avec François Cluzet et Bérénice Bejo. Film qui va quand même vous faire réfléchir deux fois, chers auditeurs, avant de louer ou vendre une cave dans votre immeuble, ou en même temps en regardant vos voisins, on ne sait jamais. Alors Jérémy, évidemment, on se souvient tous de votre rôle dans le biopic de Claude François, Clo-Clo, on en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas résister au plaisir de vous demander quelle chanson de Clo-Clo vous voulez écouter tout de suite sur Europe 1.
Alors celle que j'aime bien, qui est en plus pas très connue, c'est Reste.
Alors c'est parfait, on l'écoute et on revient juste après. Je serai accompagnée de mes spécialistes du jour et on va décrypter l'actualité du cinéma. A tout de suite sur Europe 1.
Reste, reste avec moi. J'ai besoin de toi comme toi de moi. Reste, reste, ne t'en va pas. Tu le regretterais presque autant que moi. Quand j'entends la porte se fermer sur toi, quand j'entends au loin s'éloigner ton pas, je me sens soudain tout désemparé. J'ai la tête vide et le cœur serré. Je sais bien, j'ai mes défauts. Je ne sais pas toujours trouver les mots qu'il faut. Je ne suis guère attentionné. Peut-être as-tu peur de ne pas être aimé. Mais je t'aime, oui je t'aime. Même si je ne l'avoue pas, sauf quand je suis seul et que je pense à toi. Reste, reste avec moi. J'ai besoin de toi comme toi de moi. Reste, reste. Ne t'en va pas, tu le regretterais presque autant que moi. Souvent je te vois, cet air désolé, et je meurs d'envie de te consoler, de t'ouvrir mes bras, de prendre ta main.
mais c'est par orgueil que je me retiens. Vivre à deux, c'est difficile, on a l'impression de marcher sur un fil. Il suffit de trois fois rien, et voilà changer un sourire en chagrin.
Reste de Claude François qui figurait donc sur la bande originale du film Clo-Clo dans lequel Jérémy Régnier, notre invité cette semaine, jouait. Et vous aussi d'ailleurs, restez avec nous. Clap, ça continue dans quelques instants.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et voilà, c'est la dernière partie de Clap, mais pas des moindres. On va vous parler maintenant des films sortis mercredi et évidemment qu'on vous conseille de découvrir au cinéma. Alors à mes côtés cette semaine, Sophie Grèche, vous êtes journaliste cinéma.
Oui,
participez.
Bonjour.
Bonjour Sophie, au podcast, pardon, le cinéma. Ce qui me fait vous accueillir, Victor Bonnefoy,
mais
créateur,
oui, bonjour.
Bonjour, du podcast, pardon, le cinéma, et Franck Vallière. De
non.
Canal+,
ah oui, d'accord.
Toujours
d'accord.
À mes côtés.
D'accord.
Non, il ne fait pas partie du podcast dans le cinéma. Alors avant de débattre des films, on va regarder ensemble le box-office de cette semaine. Alors un trio inchangé par rapport à la semaine dernière. Dune, Caracol en tête avec 662 000 entrées cette semaine, donc quasiment 1 700 000 entrées en deux semaines. Et il faut qu'il en profite parce que la semaine prochaine sort James Bond. Donc ça va un peu redistribuer les cartes. Deuxième marche du podium, et ça nous fait bien plaisir à la rédaction de Clap, Boîte Noire avec 185 000 entrées cette semaine, donc déjà 700 000 entrées en trois semaines, ce qui est très bien. Et puis en troisième position, j'ai envie de dire l'inamovible Bac Nord, 158 000 entrées cette semaine, un total de plus d'1 800 000 entrées depuis sa sortie le 18 août. C'est une vraie belle réussite quand même, Bac Nord. Alors, petite déception aussi, bon, faut le dire, hein, pour le film de François Ozon, tout s'est bien passé, qui doit se contenter de la 7e place du box-office. Sujet difficile, donc voilà. Autre sortie cette semaine, cette musique ne joue pour personne, le nouveau film de Samuel Benchetrit avec une distribution chorale de rêve quand même, on peut le dire. Vanessa Paradis, François Damiens, Ramzi Bedia, Joey Starr, Gustave Carven, Bouni Lanners, Valeria Bruni Tedeschi, voilà, et encore d'autres. L'histoire qui se déroule dans une petite ville portuaire où de nombreux personnages plutôt isolés vont voir leur vie bouleversée par la découverte du théâtre, de la poésie, de l'art et puis surtout de l'amour.
Il est mort ?
Oui.
D'une gifle.
Si tu fermes les yeux et que tu penses à moi, tu vois quoi ? Essaye.
Je vois que je t'aime.
Elle est jolie, cette musique. Mais s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'elle existe encore ? C'est quoi ces conneries ?
Ah, c'est le livre de merde qui lit toute la journée.
Alors, Victor Bonnefoy.
Alors, gros coup de cœur que cette musique ne joue pour personne, qui est très intéressant parce qu'il démarre un petit peu avec des codes de comédie où on aurait trois duos qui se baladeraient ensemble. Donc on a à la fois le duo Ramzi Bedia avec François Damiens, Bouli Lanners avec Joey Starr et enfin Gustave Carverne avec Vanessa Paradis. Et chacun dans leurs petits espaces, on peut se dire ah, ok, on va avoir un enchaînement de sketchs, de situations rigolotes parce que c'est tous des truands qui ont des activités de truands un peu ridicules. Hein, c'est-à-dire que Bouli Lanners et Joey Starr, leur but c'est de convaincre les gens qui sont dans le lycée de la fille de leur patron de venir à sa boum. Donc on se dit ok, on est
avec
sur
des
un
méthodes
truc...
un peu douteuses.
Oh, je vois pas de quoi vous parlez. Je
étranglement, non.
Étranglement dans les WC d'un lycée, ça n'a aucun rapport.
Pardon, mais sauf que ça, c'est les faits. Et en fait, l'allégorie de l'ange gardien et du binôme qui ne forme avec Joey Starr, en fait, c'est comme un cupidon. Ils sont un couple de cupidons qui viennent agir sur tous les personnages de ce film.
Exactement ça. Et en fait, c'est là où le film révèle toute sa tendresse, révèle toute sa douceur. C'est que justement, on a des personnages qui viennent d'une certaine brutalité, d'une certaine violence que leur a instauré la société. Et c'est en découvrant à la fois le théâtre, en découvrant pour le personnage de François Damiens la poésie, qui vont soudainement se libérer et donner quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux et des scènes absolument magnifiques. Mention spéciale notamment à Valeria Bruni Tedeschi qui ne cesse de surprendre cette année et qui est de plus en plus forte dans tous les films. En fait, chaque proposition de Valeria Bruni Tedeschi cette année est incroyable. Et là, elle a une scène dans le film qui est une sorte de monologue qui vient voler toute la fin du film. Elle est d'une puissance infinie, d'une douceur incroyable. L'écriture de Samuel Benchetrit est folle. Et non, c'est un très, 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 très gros coup de cœur, tant par la beauté plastique de la mise en scène que par la douceur des sentiments. Et puis c'est drôle, merde, c'est drôle.
C'est très très drôle, Sophie Grèche.
Oui, ben en fait, j'y allais un peu à reculons parce que la proposition qui est ces six personnages masculins bourrus, je me suis dit c'est peut-être pas mon univers qui est plutôt sensible, doux et féminin. Et en fait, Samuel Benchetrit a réussi à insuffler dans ces personnages bourrus, presque un peu clichés, violents, ce qu'il y a de plus intime, de plus universel, à savoir juste comment réagir face à l'amour, comment il intervient, comment le manifester. Et je suis sortie en disant, absolu chef-d'œuvre, je ne pensais pas être autant submergée par autant de sensibilité et de finesse dans chacun de ces personnages-là.
Pour moi, c'est le meilleur film de Samuel Benchetrit. Franck Vallière.
Oui, pourquoi pas.
Moi, ça n'engage que moi.
Moi, j'aime beaucoup Janice et John et les phrases qu'il fait dire à Jean-Louis Trintignant. Finalement, vous et moi, nous sommes pareils. Vous croyez que la terre entière nous en veut, mais en fait, personne ne sait qu'on existe. Et il y a dans ce nouveau film une phrase de Vanessa Paradis qui est un climax en 4 secondes, enchaîné par un monologue de François Damiens qui joue un gangster. Mais alors, c'est vrai que Benchetrit a une fascination pour les gangsters, mais pas aussi romantico-morbide, par exemple, que des grands classiques pondus par des grands cinéastes américains comme Les Affranchis, etc. Il s'attache cette fois-ci au romantico. Comment une petite chose poétique peut changer la vie de quelqu'un? Et ça parle essentiellement des illusions, qu'elles soient perdues ou persistantes, dans un milieu qui est absolument pas du tout fait pour ça. Et souligner, par exemple, pour l'idée de la poésie, il y a beaucoup de petits clins d'œil au travers de la radio qui diffuse des chansons romantiques. Et le fait de pouvoir chanter une petite chanson romantique peut aussi bien plaire à quelqu'un du Ku Klux Klan qu'à un black, et ça regroupe tout le monde. Des petites choses, des petits moments de poésie qui vont transformer la vie de ces gens-là avec des climax de jeu à jouer absolument délirants.
Vanessa Paradis, son personnage est bègue. Elle ne bégaye pas au moment où elle joue, mais elle a une vraie belle partition, et c'est une prestation d'actrice. On l'a jamais vue dans ce registre. Donc voilà, je crois que tout le monde ici, en tout cas dans le studio, a beaucoup aimé. Et vous en avez pensé quoi?
Tout ça très drôle, c'est déjanté, ils se moquent d'un peu de tout, quoi. Le féminisme, la culture, la création. Donc c'est très drôle, c'est très bien joué, on a passé vraiment un très bon moment.
J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original, très tendre aussi, et les acteurs étaient fabuleux. En particulier Vanessa Paradis, je l'ai trouvée étonnante.
Dans le générique, il disait la musique, s'il n'y a personne pour l'écouter, est-ce qu'elle existe toujours? Je voulais la réponse, et je l'ai eue dans le film.
Alors on quitte la douceur de cette musique ne joue pour personne, pour vous parler de Candyman. Si vous aimez donc les films de genre, c'est la suite de ce film culte de toute une génération, quand même l'icône du film d'horreur, celui dont il ne faut jamais prononcer 5 fois de suite son nom devant un miroir. Et il revient enfin sur grand écran.
C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. Et la légende raconte que si on dit son nom 5 fois en regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître.
On invoque Candyman ?
Hors de question.
Dites son nom. Candyman.
On tremble. Alors Victor Bonnefond, on en dit quoi de Candyman?
Eh bien on en dit beaucoup de bien, on est ravis de retrouver le personnage de Candyman qui n'avait pas beaucoup été respecté dans les suites du film original de 92 de Bernard Rose, pour finir jusqu'à faire un téléfilm un peu pourri à la télé. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver justement l'univers créé par Clive Barker, en plus réactualisé par Naya Da Costa et le producteur Jordan Peele, donc qui avec sa production Monkey Poe avait déjà fait à la réalisation Us et Get Out, et qui revient ici justement pour réactualiser les thématiques de Candyman, pour justement nous montrer toute la gentrification d'un quartier qu'on avait connu comme un ghetto à l'époque du premier film, et qui là vient nous raconter justement ce que c'est que l'évolution d'une mythologie, l'évolution des légendes urbaines, et comment à un moment les histoires se perdent, se tordent, quelle est l'origine du mal, l'origine d'un mal-être de toute une époque, de toute une civilisation. C'est assez passionnant. Candyman, ça fait peur, c'est fantastique, et tout l'univers visuel de Naya Da Costa nous donne envie de voir plus de films d'elle.
Et je suis complètement Sophie. D'accord, en fait je vais juste rajouter 2 petits trucs qui sont, en fait elle a réussi à garder l'essence même du premier Candyman, qui est l'imagerie de la ville, comment on s'en sert comme un personnage tordu, labyrinthique, et qui crée ses propres légendes urbaines. Et encore une fois, là, elle les change, elle les fait évoluer. On voit que les personnages qui racontent le premier Candyman, ou en tout cas sa légende de base, ne se focalisent plus sur cette espèce de croque-mitaine, mais sur le personnage qui était interprété par Virginia Madsen, pour en faire elle la grande méchante. Donc ça, déjà, c'est un point de vue absolument passionnant. Et surtout, elle en a fait un vrai film post-George Floyd, et donc elle a juste décalé le propos politique, et elle l'a très bien fait.
Alors on va tout de suite écouter vos réactions.
Je suis un grand adepte des films d'horreur, et ça m'a pas plus que ça en fait. Le film est assez lent et pas forcément tout le temps cohérent, donc je suis assez déçu.
Non, enfin, j'ai rien à dire dessus. Non, j'ai pas aimé.
Je trouve ça pas mal. J'ai aimé le fait que ce soit une suite entre guillemets de celui des années 80.
Bon, il en faut pour tous les goûts. Les spectateurs, eux, ont a priori pas tellement aimé Candyman. Alors, une autre sortie controversée aussi, hein, c'est Flag Day de Sean Penn, présenté au dernier festival de Cannes, dans lequel il dirige sa fille, Dylan Penn.
Non, mais je rigole
mort
déjà.
De rire. On va écouter un extrait d'abord.
Les moments inoubliables de l'enfance sont des contes de fées.
Don't you fly so close to the sun.
Et dans le mien, mon père était le prince.
Papa, tu fais quoi ?
Je suis entrepreneur.
Ton père est un menteur.
Votre père John Vogel a imprimé 22 millions de dollars.
Même si ce putain de monde explosait, je serais là, ma puce, à tes côtés.
C'est adapté d'une histoire vraie, hein, je crois, Victor.
Je ne suis pas certain, et si c'est adapté d'une histoire vraie, je ne sais pas s'il y avait vraiment de l'intérêt à la raconter. C'est assez terrible ce qui arrive à Sean Penn, qui déjà nous avait fait le coup avec son précédent film The Last Face, qui était une purge abyssale, sur une histoire d'amour en plein milieu de l'Afrique. C'était absolument horrible. Il revient avec Flag Day, et vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-il arrivé à Sean Penn ? Qu'est-il arrivé à la personne qui nous avait réalisé Into the Wild ? Qu'est-il arrivé à cet homme-là, qui vient ici nous raconter des histoires insipides, mal réalisées ?
Et comme il a réalisé Into the Wild, on peut tout lui pardonner.
Ah ouais, mais j'ai pas de 2 heures de ma vie à donner à cette personne, vraiment. Non, c'est absolument terrible ce qui se passe. C'est quand même quelqu'un qui, pendant les 20 premières minutes, n'a tellement rien à raconter de son histoire, qui filme tout en gros plan avec des clips musicaux. Je pense qu'il y a environ, sur les 20 premières minutes du film, 18 minutes de musique et 2 minutes de dialogue, juste pour nous filmer des parodies à la Terrence Malick, avec des gens qui viennent mettre les mains au milieu des champs et tout, pour nous raconter une histoire d'un père avec sa fille, mais ils se sont jamais vraiment entendus parce que lui, il est un peu braqueur, un peu nul, un peu raté, et Sean Penn en fait des caisses tout le long. Si c'est ça le cadeau qu'il voulait offrir à sa fille en lui disant « Viens, tu joueras dans un film de papa », il doit vraiment pas beaucoup aimer sa fille.
Oh non, on peut pas dire ça.
Oh, si. Il faut voir le film pour le croire.
Victor. Allez, on écoute vos réactions.
J'ai trouvé que c'était un film très émouvant. Une bande-son qui était vraiment également très bien. Pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs films de Sean Penn.
En fait, c'est toujours les mêmes images qui reviennent de son passé avec son père. Et voilà, une fois qu'on les a vues une fois, c'est bon, quoi. Bon, par contre, c'est très bien joué.
C'était très chouette. J'ai aimé beaucoup la lumière et c'était assez poétique.
Le public a toujours raison. Voilà, et le public a été touché.
Eh bien, j'embrasse très fort le public que je ne comprends décidément plus.
Allez, à vous de vous faire votre propre opinion. Et puis, un dernier film cette semaine, la sortie du film de Christophe Honoré, Guermantes, qui a été diffusé d'abord sur France 5 la semaine dernière. Il a fait 243 000 téléspectateurs. Le cinéaste, en fait, filme les répétitions de la troupe de la Comédie-Française qui devait jouer la pièce de théâtre Le Côté de Guermantes et qui ne pouvait plus à cause du Covid. Donc, il a décidé d'en faire un film avec, donc, notamment au casting, Laurent Lafitte. Écoutez.
Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction.
Il n'y a pas de première, on ne jouera pas.
À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter.
Parce que c'est déjà arrivé dans cette comédie française depuis 1680. Un spectacle qui n'existe pas.
Mais moi, je m'en fous, allez, on répète.
C'est absurde, c'est les musiciens du Titanic.
C'est pas insensé de répéter quelque chose, peut-être, juste pour vous.
Franck Vallière.
Oui. C'est moi.
Au tableau.
Eh bien, écoutez, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un tout petit peu Fast and Furious, vous oubliez complètement ce film. Évidemment, c'est du cinéma d'auteur français. Christophe Honoré, ce film, d'ailleurs, dans ce film, et on prend un grand plaisir à l'entendre dire qu'il se trouve mauvais acteur. Quant à savoir si il le trouve vraiment, ça, c'est une autre chose. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce film, en tout cas, c'est de voir à quel point les comédiens de théâtre, et particulièrement ceux de la comédie française, sont des Pentium, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont précis dans leur jeu d'une manière qui est quand même rare. Et quand c'est filmé dans une sorte d'improvisation qui tourne autour d'une pièce de Marcel Proust, il arrive une espèce de magie au sein du film de Christophe Honoré qui nous fait hésiter, quand on connaît assez mal Proust, comme moi par exemple, sur le fait de savoir est-ce qu'il joue une attente, une répétition, ou est-ce qu'il joue du Proust. Et du coup, la vie se mélange avec la répétition d'un texte évidemment célèbre et fameux, qui est d'ailleurs par ailleurs excellemment choisi pour les séquences, et ça donne une ambiance très doucereuse, feutrée. C'est du velours triple couche dans lequel, évidemment, si vous regardez plus souvent Piège de cristal qu'autre chose, vous allez assurément vous noyer.
Et puis on révise nos classiques cette semaine avec la sortie d'Eugénie Grandet, l'adaptation du célèbre roman d'Honoré de Balzac par Marc Duguin. Peut-être que vous l'avez étudié à l'école, c'est un roman écrit au 19e siècle mais qui a une résonance très moderne. L'histoire, je vous la rappelle, c'est celle d'Eugénie Grandet, victime de l'avarice de son père qui ne veut pas la marier pour ne pas avoir à payer de dot. Elle est ensuite trompée par l'homme qu'elle aime. Et puis finalement, Eugénie Grandet, donc femme blessée, meurtrie, va s'émanciper pour ne plus jamais avoir à dépendre du bon vouloir des hommes. Juste un mot sur le casting, on retrouve Joséphine Japy, toujours aussi lumineuse, et puis le père Grandet, c'est Olivier Gourmet qui s'y colle. Merci beaucoup, merci Sophie Grèche, merci Victor Bonnefoy, merci Franck Vallière. C'est la fin de cette émission, alors que là, bien sûr, revient la semaine prochaine. Je vous laisse en charmante compagnie avec William Lémergie qui va bien prendre soin de vous. Je vous souhaite également une très belle journée à l'écoute d'Europe 1 et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma.